ravie de vous retrouver. Le programme est chargé ce matin. À 8h20, vous retrouvez notre grand invité international Ousmane Sonko, et également ce matin des pages spéciales avec des invités et nos experts maison pour décrypter ensemble ce protocole d'accord approuvé par les États-Unis et l'Iran. Que dit-il? Pourquoi maintenant? On en parle d'abord dans votre journal. Martin Guez, bonjour.
Bonjour André Mellard, bonjour à toutes et à tous.
Et c'était donc imminent, ça y est, c'est acté, un protocole d'accord donc entre Washington et Téhéran, validé.
Une cérémonie pour l'entériner, même prévue ce vendredi à Genève, un protocole d'accord annoncé par le médiateur pakistanais, confirmé ensuite par les États-Unis comme par l'Iran, un accord qui englobe aussi le Liban. Nous serons dans ce journal à Téhéran, à Beyrouth et avec Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Beaucoup de questions restent toutefois en suspens, plusieurs sujets sont source de tensions et d'hostilité depuis des décennies entre les États-Unis et l'Iran. Il y aura donc besoin de beaucoup de temps pour finaliser les détails techniques, décryptage juste après ce journal avec vos invités André-Anne Mellard. Vous entendrez aussi dans cette édition Ousmane Sonko, le désormais ex-premier ministre sénégalais qui revient sur son divorce politique avec le président Bassirou Diomaye Faye, avant-goût de la longue interview accordée par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal à RFI et à France 24, interview à retrouver en intégralité à 6h15, temps universel. Et puis enfin, festival de buts durant cette nuit américaine, une nuit prolifique pour l'Allemagne et la Suède. Un seul petit but suffit en revanche au bonheur de la Côte d'Ivoire, vainqueur 1-0 de l'Équateur pour son entrée dans le mondial.
Mois de guerre et finalement un accord.
Annoncé avec insistance ces derniers jours, un protocole d'accord enfin approuvé par les États-Unis comme par l'Iran. Annonce du médiateur pakistanais confirmée par les deux belligérants. Un grand pas salué de toutes parts, une étape cruciale, souligne l'ONU. Un accord qui met immédiatement fin à la guerre, déclare Téhéran. Un protocole qui ouvre la voie à des pourparlers dans un délai de 60 jours, ce qui doit permettre dans un deuxième temps de parvenir à un accord définitif. Et on retrouve à Téhéran notre correspondant en Iran, Siavash Ghazi. Quel sentiment prédomine ce matin dans la capitale iranienne?
C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran. Les négociations se sont poursuivies jusqu'à la dernière minute. Téhéran a obtenu notamment la fin du blocus immédiatement et pas dans 30 jours, comme cela était prévu au départ. Ensuite, le cessez-le-feu concerne tout le Liban, avec le respect de l'intégrité territoriale du Liban, ce qui signifie qu'à terme, l'armée israélienne devra quitter le sud du Liban. L'Iran gardera également le contrôle sur le détroit d'Hormuz et percevra des droits de service, c'est-à-dire pour assurer la sécurité du trafic maritime mais aussi la protection de l'environnement. Il y aura aussi déblocage d'une partie des avoirs iraniens. Le Qatar versera à l'Iran, avant même la signature vendredi de l'accord, quelques 12 milliards de dollars. Enfin, en ce qui concerne le dossier nucléaire, le programme nucléaire iranien, Téhéran reste ferme puisqu'il y aura des négociations à terme, pas dans l'immédiat. Et Téhéran veut garder son programme d'enrichissement d'uranium, ce que les États-Unis ont accepté selon Donald Trump. Et aussi, pas question d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi, notamment les fameux 450 kg enrichis à 60%. La seule chose que l'Iran pourrait faire éventuellement, c'est de diluer le niveau d'enrichissement à 20%, mais pas à moins de ce niveau-là.
Merci Siavash Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. Une cérémonie pour acter cet accord et elle est prévue à Genève ce vendredi, après le sommet du G7 qui débute ce soir à Évian, cérémonie à laquelle doit participer le vice-président américain J.D. Vance. Que le pétrole coule à flot, c'est lui féliciter Donald Trump. Le protocole d'accord prévoyant une réouverture progressive du détroit d'Hormuz, ainsi que la levée immédiate du blocus naval américain. La mission maritime internationale initiée par Paris et Londres et elle prête à accompagner la réouverture du détroit d'Hormuz, vient de déclarer le président français Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie qui se sont dit prêts à lever certaines sanctions visant l'Iran. Un accord, on l'a compris, qui doit aussi englober un arrêt des combats au Liban, où une nouvelle guerre entre le Hezbollah et Israël a éclaté le 2 mars dernier. Un protocole d'accord menacé jusqu'au dernier moment par ces nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite pro-iranien. Des frappes qui ont fait 3 morts hier. L'Iran qui avait prévenu Israël que viser la capitale libanaise constituerait une ligne rouge, une attaque qui n'aurait pas dû avoir lieu, a vivement réagi Donald Trump sur son réseau social. Téhéran qui avait annoncé son intention de riposter. Riposte qui n'aura finalement pas lieu. Et on retrouve notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife. Paul, comment la nouvelle de cet accord est accueillie au Liban?
Martin, la presse libanaise estime dans son ensemble que l'accord sur la fin de la guerre est défavorable à Israël, qui a essayé jusqu'à la dernière minute de le torpiller, ou du moins d'imposer sa propre interprétation du texte. C'est dans ce cadre que s'inscrit la dernière frappe dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, qui a eu lieu clairement sans le feu vert américain, provoquant la colère de Donald Trump. Le quotidien francophone L'Orient Le Jour, résolument hostile au Hezbollah, écrit que Benjamin Netanyahou perçoit l'accord irano-américain comme le prélude à une défaite défaite politique et électorale, surtout s'il est contraint de mettre fin à ses opérations militaires au Liban. Effectivement, l'annonce de la fin de la guerre intervient alors que l'armée israélienne était engagée dans une course contre la montre pour essayer d'encercler la ville de Nabatieh et d'atteindre les collines Ali Taher, un des principaux bastions du Hezbollah dans le sud du Liban. Le cessez-le-feu a brutalement interrompu cette vaste offensive. Le quotidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, croit savoir que l'Iran a accepté d'annuler sa riposte en contrepartie de concessions supplémentaires de dernière minute de la part de Washington. Téhéran aurait ainsi obtenu la fin des opérations militaires sur l'ensemble du champ de bataille libanais et non pas seulement l'arrêt des frappes sur Beyrouth.
Merci beaucoup Paul Khalife, en direct de Beyrouth sur RFI. Le Liban, on le rappelle, l'opération militaire israélienne a fait plus de 3700 morts depuis le 2 mars. Une annonce de protocole qui fait réagir également les chancelleries et qui fait réagir les bourses. Le cours du pétrole a chuté après l'annonce de la future réouverture du détroit d'Ormuz. Les bourses asiatiques ont, elles, bondi ce matin à l'ouverture. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour Martin.
Journaliste au service économie de RFI. Nathanaël, le pétrole chute, les marchés flambent.
Oui, le cours du baril de Brent, l'indice de référence pour le pétrole, perd 4% ce matin. Le baril qui repasse sous la barre des 85 dollars. Quant aux bourses asiatiques, effectivement, elles s'envolent. Plus 5% pour le Nikkei au Japon, plus 6% en Corée du Sud. Une envolée qui reflète l'enthousiasme et aussi le soulagement des milieux d'affaires asiatiques. Rappelons qu'en dehors du Moyen-Orient, l'Asie, c'est la région du monde qui a été le plus durement touchée sur le plan économique par ce conflit. 90% du pétrole importé au Japon transite par exemple par le détroit d'Ormuz. Maintenant, attention, on ne le répétera jamais assez. Les variations à court terme des marchés reflètent l'humeur des investisseurs, pas forcément la réalité du moment. Tous les experts le disent, même si rien ne vient perturber le cessez-le-feu, même si il faudra des mois avant un retour à la normale. Rouvrir le détroit, ça peut aller très vite. Retrouver la confiance des armateurs, réparer les infrastructures pétrolières et gazières bombardées, ça, ce sera de toute façon beaucoup plus long.
Merci beaucoup, Nathanaël Vitran. Un protocole d'accord sur lequel nous reviendrons très longuement ce matin sur RFI, notamment juste après ce journal. Édition spéciale à suivre autour d'André de Mellard.
RFI à Dakar, 92 FM.
RFI 5h08 à Dakar. L'autre grand temps fort de votre matinale sur notre antenne, ce sera cette grande interview exclusive d'Ousmane Sonko. À retrouver également sur France 24, l'ancien Premier ministre sénégalais, désormais président de l'Assemblée nationale et réélu il y a peu à la tête du PASTEF. Il reviendra notamment sur sa rupture politique fracassante avec le président Bassirou Diomaye Faye. C'était il y a un peu moins d'un mois, un divorce consommé entre les deux anciens compagnons de lutte au sein du PASTEF. Une rupture qu'il faut désormais surmonter, nous dit Ousmane Sonko. Extrait choisi.
Cette affaire appartient désormais à l'histoire politique du Sénégal. Un homme politique, c'est une trajectoire et cette séparation sur le plan institutionnel n'est pas l'aspect le plus marquant de ma carrière politique en réalité. Le Sénégal est plus grand que les divergences politiques que nous pouvons avoir. Pour assurer tout le monde qu'il n'y aura pas de déchirure, il peut y avoir des divergences politiques programmatiques, mais pas de déchirure du pays. Le peuple sénégalais est plus grand que cela. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois remercier d'abord le peuple sénégalais d'avoir porter la confiance sur un candidat que moi-même j'ai désigné et ensuite d'avoir renouvelé cette confiance en nous donnant cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale et par anticipation en me désignant à la tête de cette institution. Désormais, mes énergies vont être concentrées à donner à cette institution-là le rôle et la place qui est la sienne.
Ousmane Sonko qui répond aux questions de Léa-Lisa Vesterov pour RFI et de Marc Perelman de France 24. Interview exclusive à retrouver en intégralité dans un peu plus d'une heure sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. L'actualité africaine également marquée par cette nouvelle flambée des cas d'Ebola dans l'est de la RDC. La province de l'Ituri concentre 95% des cas enregistrés selon Médecins Sans Frontières et 72 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures, ce qui porte le total à 782 cas confirmés pour 181 décès liés à la maladie, selon le dernier bilan des autorités congolaises. L'actualité internationale marquée également cette nuit par ces nouvelles frappes russes sur Kiev, des bombardements qui ont fait au moins 9 morts et qui ont endommagé l'un des joyaux de la capitale ukrainienne, à savoir la cathédrale de la Dormition de la Lore des Grottes, célèbre complexe orthodoxe qui est en feu. L'édifice est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un incendie s'est déclenché sous les toits de l'édifice, c'est ce qu'a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur le territoire russe. Cette fois-ci, une attaque de drone ukrainien a, elle, fait 3 morts dans la région de Toula, à 200 km au sud de Moscou, selon le gouverneur régional. Une actualité décidément très riche ce lundi matin qui éclipserait presque la Coupe du Monde de football. Heureusement, Cédric d'Olivera est là pour une petite séance de rattrapage des matchs de la nuit. Bonjour Cédric.
Bonjour Martin.
Merci d'avoir gardé les yeux ouverts pour nous. Ça aurait quand même été dommage de rater le retour des éléphants en Coupe du Monde après 12 ans d'absence. Des éléphants qui ont repris leur marche en avant face à l'Équateur tout à l'heure.
Et oui, dans un match très accroché face à l'Équateur qui a touché deux fois la barre en première période avant de tomber sur un Yaya Fofana, le gardien ivoirien, très solide. Mais les éléphants ont mieux fini le match dans le sillage de l'insaisissable Yann Diomandé, homme de la rencontre. Mais c'est Amad Diallo, remplaçant, qui a marqué le but décisif à la 90e minute. 1-0 donc, c'est bien parti Martin pour les Ivoiriens qui joueront l'Allemagne samedi à Toronto. La Mannschaft qui a étrié les pauvres joueurs de Curaçao 7-1, c'était hier. Dans le groupe F, autre carton pour la Suède qui n'a laissé aucune chance à la Tunisie, 5-1. Alexander Isak et Gyökeres ont marqué, mais le grand monsieur de ce match, c'est Yassine Ayari, 22 ans, auteur d'un doublé qui aurait pu jouer pour les Aigles de Carthage puisque sa mère est tunisienne. Il n'a pas célébré ses buts, Yassine Ayari. La Suède prend la tête du groupe après le match nul spectaculaire entre les Pays-Bas et le Japon, 2-2. Match nul logique entre les deux équipes.
Merci beaucoup Cédric d'Olivera. Cédric d'Olivera, on vous retrouve dans 1h30 pour les échos de la Coupe. Et puis un dernier petit mot pour vous dire que les épreuves du baccalauréat débutent aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme en France. En France, plus de 500 000 élèves vont plancher ce matin sur leur copie de philosophie. La France, où le ministre de l'Éducation affirme qu'il ne souhaite plus que les épreuves du bac soient organisées l'après-midi en raison du réchauffement climatique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse avec André Mélard pour RFI Matin.
Merci beaucoup Martin Guèze, RFI. À Paris, il est 7h11, prochain journal dans 20 minutes et à la une. Le quatrième épisode de l'enquête Mozambique expose de signer RFI avec un consortium de journalistes, le tout coordonné par Forbidden Stories. C'est à écouter dans le journal aujourd'hui. On parle violence d'État, persécution politique et une impunité totale dénoncée par les organisations de la société civile. Comme d'habitude, vous retrouvez aussi cet épisode sur notre site rfi.fr. Et n'oubliez pas également ce matin notre grand invité international, Ousmane Sonko, ex-premier ministre sénégalais.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Let's elle tape à la porte, à plus de 700 bornes. L'adaptation est technique, les émotions s'emportent. Des fois je me dis comment j'aurais fait sans pote. Merci à Popeye et Chériot pour mes assiettes sans porc. J'étais trop dans les cordes pour kiffer le sud-ouest. Mon corps passait du nage au nos tontons pastisomètre. C'est casse-pipe de jouer à la roulette avec son mal-être. On répare pas l'estime de soi, la clé à molette. J'ai serré les molaires pour calmer ce qui me rongeait. J'en ai perdu ma langue de Molière dans des roms arrangés. J'étais pris de colère à trop chercher mes mots. Mon cerveau n'avait plus de dictionnaire pour éponger mes mots. Tête, je me suis peut-être trop mis en mode teigne. Je voulais que Rof daigne prendre les choses comme telles. Et en termes de maturité, j'ai pris des golden à me faire encore à la dure idée d'être love d'elle. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais mieux ICO et à tout faire à contre-courant. On se brise les. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais viser haut, mais à tout faire à contre-courant, on se brise les os. Le temps ne passe plus quand les soucis se succèdent. J'ai voulu mettre la poisse en sursis, mais sans succès. C'est dur quand les épreuves s'alignent et te minent, et que le mauvais œil te tient aussi dans sa ligne de mire. Je pensais que la ville rose serait à pur plan, je me doutais bien que j'allais me faire surprendre. Y a eu des dures pentes à grimper, mais j'avais qu'un cure-dent au lieu d'un piolet. Alors j'ai fini à pur pan. L'histoire raconte que les Allemands pétaient des fusibles. Ils pensaient stopper ce vent fou avec leurs fusils. Moi au départ j'étais juste venu en visite. Je me suis cru invincible mais vite suppléé par l'homme invisible. Ce fut physique dans la spirale d'autant. Je me félicite de ne plus tomber dans son sillage du temps. À titre indicatif, maintenant je dis un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu abriter mon antipathie. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais mieux ICO et à tout faire à contre-courant, on se brise les. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais viser haut, mais à tout faire à contre-courant, on se brise les os. J'ai été ballotté de spirale en spirale, je me suis foutu dans une mission où y a pas de pause pirate. Au regard de mes projets, je me suis dit qu'est-ce qui rame, peut-être que je m'inspire mal ou de choses irrespirables. Mon esprit râle, nos liens sont passés au test, inapte, cette mesquina, mes estomacs et me file des crampes intestinales. Peut-être que j'estime mal les breaks interminables sur ma festina. J'ai eu des gestes minables, tout ça pour des broutilles. J'ai eu le pouce de Ponce Pilate appuyé sur la goupille, prêt à faire péter la grenade et rendre l'âme dans l'engrenage. Entre Narg et moi, on nourrissait notre cancre là. Il était temps de prendre le large et tourner la page quand il n'y a plus d'engagement dans l'attachement. Mes opinions n'ont plus l'âge tendre. Maintenant j'accepte lâchement de recevoir de l'amour quand l'âge tend. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais me hisser haut, mais à tout faire à contre-courant, on se brise les. Je me voyais toute une vie durant dans la ville rose, à être un simple figurant, mais celui qui vise le rôle. Dans cette spirale d'autant, je pensais viser haut, mais à tout faire à contre-courant, on se brise les os.